Radio Kapi.
Oh, Kapi. Billy Van Lutumba pour le journal.
En entente de cette édition, nous vous faisons part des dispositions retenues par la CENI pour organiser des réunions électorales ainsi que celles observées durant toute la période de la campagne, soit du dimanche 19 novembre au 18 décembre. Après des accrochages entre les groupes armés Bilos et Bishambouke et Tuiraneo dans les villages de Rutiga, Kivumu et Bizibakabingo, dans les hauts plateaux du territoire des Fizi au sud Kivu, dans le cours de ce journal, nous parlons de la calmie signalée dans cette zone. Santé, il lancera question en fin de ce journal avec Dr Joseph Tangwera, médecin pédiatre de l'hôpital de référence de Bukavu. Il est notre invité qui s'étale sur quelques causes favorisant la naissance des enfants prématurés. Chers auditeurs, nous nous retrouvons sous peu pour passer plus ou moins 20 minutes en scrutant les nouvelles qui font l'actualité dans nos provinces. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. La campagne électorale commence le dimanche 19 novembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et se termine le 18 décembre. Selon un communiqué de la Commission électorale nationale indépendante et relative parvenu ce vendredi à Radio Okapi, sont habilités à organiser des réunions électorales. Seuls les partis et regroupements politiques et les candidats indépendants ou leurs délégués. Tout en indiquant que les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national, la CENI appelle les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux à veiller à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. D'autres lignes de conduite établies par la CENI pour cette campagne électorale avec vous, Grâce Hamzati.
D'après la CENI, les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Cependant, elle interdit de tenir des propos injurieux ou diffamatoires, mais également des propos susceptibles d'inciter au mépris envers les tiers, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre effet répréhensible par les lois de la République. Il est aussi interdit d'inciter quiconque à commettre des actes de nature à entraîner des violences, des menaces ou à priver d'autres personnes de l'exercice de leurs droits ou libertés, constitutionnellement garantie, poursuit le communiqué. La CENI ajoute que la position d'affiches, des photos et autres effigies de propagande électorale pendant la période de la campagne est autorisée, mais avec des conditions. C'est entre autres, chaque candidat indépendant, parti ou regroupement politique ne peut installer à ses frais, à proximité du centre de vote, qu'un seul panneau d'affichage. Tout affichage est interdit sur les édifices publics, conclut le communiqué de la CENI.
Le coordonnateur provincial de Barza intercommunautaire du Tanganyika a lancé un message de paix et de cohésion entre toutes les communautés vivant dans la province. Ludovic Kasongo a fait cette déclaration vendredi à Kalemi dans la province du Tanganyika. D'après lui, en cette période préélectorale, il y a beaucoup d'agitation et des manipulations de certains politiciens. C'est le moment de cultiver la paix. Obtenir un duplicata de la carte d'électeur à l'antenne de la CENI ou à Lungo relève d'un parcours de combattant. Les requérants sont rangés en file indienne pour à longueur de journée. Avec une machine pour une population estimée à au moins 1 million d'habitants paraît énormément insuffisant. Jacques Kassami a constaté à quel point les potentiels électeurs peinent à se retrouver un duplicata.
Les requérants qui inondent les sièges de la CENI ou à Lungu sont ceux-là qui se retrouvent avec des cartes d'électeurs dont les écrits ou encore les photos ont été gommés par l'usure, curieusement dans moins d'une année de la délivrance par la Commission électorale nationale indépendante. Ces quelques requérants infirmiers de leur état expriment leur impatience.
Chez nous, à l'hôpital, on est en train de nous demander les cartes qui sont lisibles. Est-ce qu'on va perdre le boulot à cause de la carte qui n'est pas visible? Hier, j'étais ici, on nous a dit que les cartes ne sont pas disponibles. Maintenant, nous nous demandons comment on va faire.
Nous attendons un contrôle physique qui était programmé pour aujourd'hui et reporté pour que les agents puissent avoir des cartes lisibles. Aujourd'hui, c'est ma deuxième fois que je me présente ici à la CENI, trouver une carte duplicata. Je suis toujours en attente de la carte qui est lisible.
La chef d'antenne de la CENI, Walungu, rassure que sa hiérarchie a promis de diligenter une solution.
Nous avons seulement une seule machine. Pour que nous puissions servir tous les territoires, c'est un peu difficile. C'est pourquoi la CENI aujourd'hui nous a donné l'autorisation de renforcer nos machines dans chaque chefferie.
3 machines supplémentaires seraient en route. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a accepté la contre-expertise sollicitée par la défense du journaliste Stanny Boujakera. Il s'agira prochainement de produire le vrai sceau de l'ANR supposé contrefait par le prévenu. Le jugement avant dire droit a été rendu à l'audience publique de ce vendredi à la prison centrale de Makala. Cette contre-expertise pourra apporter de l'éclairage sur les diverses contradictions de l'accusation, selon la défense du journaliste en prison depuis le 8 septembre. Un motif de soulagement pour le collectif des avocats. Maître Jean-Marie Kabengela est au micro de Jeff Ngoy.
Le collectif de la défense de Stanislas Boujakera salue cette décision du tribunal qui traduit la volonté de nos juges d'être au service de la justice et de la vérité. Alors, après ce prononcé, le tribunal a renvoyé la cause à 2 semaines. Cela va permettre à ce que le dit jugement avant du droit soit signifié aux experts ainsi qu'à toutes les parties et les experts désignés vont comparaître pour s'entendre à signer le devoir que le tribunal entend leur confier et ils auront également le temps de travailler et de faire rapport, lequel rapport sera soumis au débat contradictoire des parties.
Retour au calme dans les hauts plateaux du territoire de Fizi au sud Kivu. Après des accrochages qui ont opposé hier 2 groupes armés locaux, Bilose, Bishambuke et Turaneo dans les villages de Ruti, Gita, Vibi, Kivu, Mwebi, Ziba, Kabingo, ces villages sont situés dans 10 kilomètres au sud de Minembwe centre. Selon des sources locales, les combattants Maïmaï ont profité du prétendu vide sécuritaire laissé par les combattants Turaneo, la plupart d'entre ces derniers ayant quitté la zone pour des destinations inconnues. Le porte-parole de l'armée sur l'accès opérationnel des hauts plateaux, le sous-lieutenant Jérémy Meyadjibé, confirme ces accrochages. Fiston Goma.
Des éléments d'information à la possession des FRDC font état des accrochages jeudi entre les groupes armés Maïmaï, Bilose, Bishambuke et Turaneo. Selon les porte-parole de la 2e brigade FRDC basée à Minembwe, ces combats se sont déroulés dans les hauteurs de Biziba, au sud-ouest de Minembwe. Cependant, les FRDC ne disposant d'aucune source fiable dans la zone des combats, aucun détail d'après la même source n'a été révélé. Il affirme toutefois que la situation est revenue au calme ce vendredi dans la zone. Jeudi, des sources locales ont affirmé que le Maïmaï Bilose Bishambuke était venu lancer des attaques contre les positions Turaneo basées dans la zone de Rutigita. Les raisons de ces attaques n'ont pas été révélées. Vers 7 heures du matin, les affrontements se sont étendus vers d'autres villages, dont Kivumu et Kabingo à l'ouest de Minembwe centre. 2 combattants Turaneo ont été grièvement blessés lors des affrontements. Vers 9 heures, des écoles locales de Minembwe avaient libéré les enfants pour qu'ils rentrent chez eux, considérant que la menace devenait imminente pour atteindre Madegu, les centres de Minembwe. Par ailleurs, des éléments Turaneo ont attaqué vers 5 heures du matin le village Natulonge, à 35 km au sud de Minembwe dans le groupement Basimunyaka sud. Des tirs lourds et légers ont provoqué la fuite des civils. Cependant, les Maïmaï basés dans la zone ont riposté pour contrer cette incursion. D'Ouvira Fiston Omamayaba, la Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, l'ONG Au cœur de l'Afrique pour la paix au Cap, en partenariat avec MSF Espagne, projet de Salam Abila a sensibilisé le jeudi 16 novembre les officiers supérieurs et sous-officiers des FRDC du commandement Axe opérationnel Maniema. Selon les organisateurs, cet atelier avait comme but de réduire l'incidence des violences sexuelles attribuables aux forces armées de la RDC. À l'issue de cet atelier, les participants se sont engagés à restituer les enseignements appris à leurs unités respectives et de respecter et faire respecter scrupuleusement les engagements pris par les hauts responsables militaires des FRDC pour la lutte contre les violences sexuelles. On écoute Fulgence Rousseruka, coordonnateur de cette structure au micro de Florence Kizalunga.
Cet atelier avait comme objectif la réduction de l'incidence des violences sexuelles attribuables aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et au cours de cet atelier, nous avons aussi rappelé aux officiers supérieurs des FARDC leurs responsabilités en matière de lutte contre les violences sexuelles telles que contenues dans le plan d'action des FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles. Nos attentes par rapport à l'atelier, c'est atténuer ou réduire les cas de violences sexuelles qui sont attribuées aux militaires FARDC et que ces officiers FARDC sensibilisés puissent aussi s'approprier des engagements pris par leur hiérarchie militaire dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles.
Dans le Nord Kivu, mauvaise condition carcérale des détenus dans la prison urbaine Kakwangura de Butembo. Si des décès sont rapportés depuis plus de 2 mois dans cette maison carcérale, des cas de tuberculose pulmonaire viennent d'y être diagnostiqués. Une situation qui inquiète les responsables pénitentiaires de la prison de Butembo. Martial Papimoukeba pour les détails.
Les mauvaises conditions carcérales, sanitaires et hygiéniques sont à la base de cette situation. Selon des sources pénitentiaires, la prison urbaine de Butembo, qui a la capacité de 200 personnes, héberge actuellement plus de 900 détenus. La plupart de ces détenus souffrent de la diarrhée et d'une malnutrition sévère. D'après la même source, 30 cas de tuberculose pulmonaire viennent d'être diagnostiqués au sein de la prison de Butembo. La vie dans la promiscuité fait craindre pour les responsables pénitentiaires la propagation de cette maladie contagieuse. L'isolement des malades est pratiquement impossible suite à la surpopulation carcérale. En outre, l'air prise en charge à l'intérieur de la prison est encore très insuffisante, faute de médicaments et de nourriture en quantité et en qualité. Depuis 3 mois, la société civile et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme appellent les autorités de prendre à bras le corps la situation des détenus de la prison de Butembo. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et puis, les organisations de la société civile ainsi que les autorités politico-administratives doivent soutenir les efforts des autorités de la santé dans la lutte contre le paludisme. C'est l'objectif de la matinée de sensibilisation que Sanro Santé Rurale, en partenariat avec la division provinciale, a organisée hier jeudi à Bounia. Les participants doivent convaincre les membres de la communauté à utiliser correctement les moustiquaires imprégnés d'insecticides, ce qui pourra faire baisser la tendance du taux de morbidité et de mortalité du paludisme qui prend des proportions inquiétante en Ituri selon les autorités sanitaires. Le point avec Jean-Claude Lokidil.
Chef de quartier des avenues, bourgmestre des communes, acteurs de la société civile ont préparé à cette séance de sensibilisation. Selon les organisateurs de cette activité, cette lutte contre le paludisme ne relève pas seulement de la responsabilité des acteurs œuvrant dans le secteur de la santé. Le chef de la division provinciale de la santé en Ituri rappelle que le paludisme est la première pathologie qui entraîne beaucoup de décès en Ituri. Docteur Louis Tulo.
Nous devons gérer là où les moustiques se multiplient. Et si chacun s'impliquait dans l'assainissement, nous sommes en mesure d'inverser la tendance d'ici 2030 pour que toute la population congolaise vive sans beaucoup de décès chez les enfants et chez les femmes enceintes.
Pour inverser la tendance, certains habitants réclament une nouvelle campagne de distribution des moustiquaires. Ils estiment que les anciens reçus il y a de cela plus de 2 ans sont délabrés, ce qui entraîne de nouvelles contaminations à cause des piqûres des moustiques. Francine Mujagani est infirmière.
Le nombre des patients souffrant de malaria peuvent effectivement augmenter parce que nombreux ne passent plus la nuit sous un moustiquaire. La dernière distribution date de longtemps. Nous demandons à Sanogo de vite doter la population des nouveaux moustiquaires.
Sanre fustige l'attitude de certaines familles qui refusent l'accès aux enquêteurs dans leur ménage pour vérifier l'état de moustiquaires ou s'ils sont réellement utilisés à bon escient.
Programme de développement local de 145 territoires a le budget pour la construction et la réhabilitation des routes et des sites agricoles qui est la deuxième phase de ce programme est passée de 260 millions de dollars américains à 1,250 milliards de dollars américains. C'est ce qu'a annoncé la ministre du Plan. Judith Touluka s'est ainsi exprimée ce jeudi 16 novembre ici à Kinshasa lors de la conférence de presse conjointe avec son collègue des médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Judith Touluka est au micro de Paul Matendo.
Quand le programme a été élaboré, on a pris les éléments pour ces routes-là sur base d'anciens programmes qui ont eu à financer des routes, qui avaient aussi établi un certain nombre de données chiffrées pour les routes qui ont été choisies. Ce sont des routes de desserte agricole. Et nous avons eu à décaisser au niveau du gouvernement 12 millions de dollars pour l'étude de faisabilité des routes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les routes? C'est que, alors que sur base des données qu'on avait eues précédemment, le budget pour les routes était évalué à plus ou moins 260 millions de dollars. Suite aux études de faisabilité, ce budget est passé à 1,250 milliards de dollars. Donc on a pratiquement multiplié par 5. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu tenir compte, non seulement ce n'était plus un entretien de 20 000 km plus réhabilitation de 20 000 autres, donc au total 40 000 km sur lesquels on devait travailler. on est arrivé, sur base des études de faisabilité, à devoir réhabiliter 40 000 km de route de desserte agricole avec un certain nombre d'ouvrages.
Actualité internationale.
Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a décidé d'interdire temporairement les voyages à l'étranger à son gouvernement, une mesure qu'il va aussi s'appliquer à lui-même pour aider son pays à réduire ses dépenses et faire face à la crise économique. Cette décision a été annoncée après que le Fonds monétaire international FMI a approuvé un prêt de 175 millions de dollars au Malawi. Le Libéria a reçu jeudi les félicitations des observateurs de l'Union européenne et de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest pour la bonne tenue du deuxième tour de la présidentielle. Le vote s'est tenu mardi et le dépouillement des bulletins est en cours. Pour l'observateur en chef adjoint de la mission d'observation de l'Union européenne, le dépouillement a été pour l'essentiel effectué de manière efficace, précise et transparente, mais d'importantes étapes de réconciliation ont été omises dans le but d'accélérer le processus. Des résultats partiels donnent un léger avantage à l'opposant Joseph Boakai face au président sortant George Weah.
L'invité.
Les infections urinaires non traitées, les maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, l'anémie chez la mère font partie des facteurs qui favorisent la naissance des enfants prématurés. Pour en parler, nous recevons dans cette édition Dr Joseph Ntanguera. Il est médecin pédiatre de l'hôpital référence de Bukavu. Il s'entretient avec Rachel Kessembango.
Docteur Joseph Ntanguera, bonjour.
Bonjour madame.
Qu'en parle-t-on d'un enfant prématuré?
On parle d'un enfant prématuré si le nouveau-né vient de naître avant l'âge de 37 semaines d'aménorrhée.
Il existe trois niveaux de prématurité, lesquels?
Nous avons la prématurité modérée, c'est quand on est entre 32 semaines et 37 semaines d'aménorrhée. Nous avons la grande prématurité, c'est quand nous sommes entre 28 semaines et 32 semaines. Et nous parlons de l'extrême prématurité, quand nous sommes en dessous des 28 semaines de naissance de ce nouveau-né.
Qu'est-ce que nous pouvons savoir sur les causes, les facteurs de la prématurité?
Pour les causes de la prématurité, il y en a de trois niveaux. Ça veut dire qu'on va vous parler des causes ou des facteurs liés à la mère. On aura des causes ou des facteurs liés au fœtus. Et on aura des facteurs ou des causes liées à la grossesse elle-même. Mais je commence par les causes maternelles. Vous pouvez avoir chez la maman des infections urinaires non traitées peuvent être l'une des causes des prématurités. Des malformations congénitales de l'utérus. Vous pouvez avoir aussi de maladies chroniques comme par exemple le diabète, l'hypertension, comme l'anémie peuvent être des facteurs pouvant expliquer cela. Maintenant, si nous sommes du côté du fœtus, on peut avoir des causes qui peuvent être des causes de gémellité, donc grossesse multiple. Les enfants qui naissent de grossesse multiple habituellement n'arrivent pas à naître à terme. Ce sont des doublés, des triplés, des quadruplés, ainsi de suite. Et on peut avoir aussi, du côté de la grossesse, une cause qu'on appelle chorioamniotite. Ça veut dire l'infection qui atteint juste le placenta et les membranes du placenta. Ça peut être aussi des causes liées à la grossesse. Et au cours de la grossesse aussi, on peut avoir l'hypertension artérielle chez la maman, qu'on appelle préclampsie. On peut avoir également les hémorragies liées à la grossesse. C'est là que nous parlons des placenta prévia. Décollement prématuré du placenta peuvent amener à ce que la femme ait un accouchement prématuré.
Quelle est la prévalence des naissances prématurées dans notre province du Sud-Kivu?
Disons que les données en termes de prévalence ou de fréquence, il n'y a pas de données bien élucidées là-dessus. Il y en a des données au niveau mondial, c'est autour de 6,5% en moyenne. Et ça varie habituellement entre 4% et 16%, c'est ce qu'on peut dire dans le monde. Quoi.
Et comment prévenir la prématurité?
Tant qu'on connaît des causes, il faut maintenant y penser en termes de mesures préventives. Et le gros de prévention lié à cette prématurité, c'est sur le suivi de la grossesse chez la femme. Ça veut dire qu'on doit avoir des consultations prénatales. Il a été décrit que les grossesses qui ne sont pas bien suivies ou mal suivies peuvent être des causes de prématurité. Et donc, quand on fait les consultations prénatales, on arrive à dépister ces facteurs de risque que je viens de citer avant. Et quand il y en a, on peut le soigner.
Le thème développé, c'était étreinte d'un parent, une thérapie puissante, ce qui nous renvoie à la méthode kangourou. Parlez-nous-en.
La méthode kangourou, disons, c'est une méthode que nous pouvons dire, entre guillemets, c'est une couveuse humaine, ce qu'on peut dire, si on peut caricaturer. C'est comme l'animal kangourou qui garde son petit dans sa poche. Et donc, la maman qui vient d'avoir un enfant qui vient de naître, prématuré, elle arrive à réchauffer son enfant en faisant la méthode que nous appelons peau à peau. Donc la méthode kangourou, c'est la méthode peau à peau où la maman doit avoir la torse qui est nue, la poitrine, l'enfant qui ne porte pas les habits, on essaie de les mettre sur la poignée de la maman, on les couvre avec le bonnet pour la tête pour ne pas perdre la température, on le met aussi des chaussettes qu'il doit porter et on les couvre maintenant avec un habit qui couvre et la poignée de la maman et l'enfant et il est là, il est stabilisé sur le plan chaleur, sur le plan psychologique et donc la maman peut arriver aussi à les stimuler pour la respiration et l'enfant il pourra grandir, gagner du poids, il ne va pas en perdre parce qu'il n'aura pas froid.
Pour finir, comment prendre en charge les enfants nés prématurés?
Quand on a un enfant qui vient de naître, il doit obligatoirement être examiné à la naissance par les néonatologues, donc les pédiatres qui s'occupent des nouveau-nés et il admet en néonatologie. Quand on l'admet en néonatologie dans les services, on a des principes de prise en charge. Le premier principe, nous devons le garder au début à la chaleur. On le met dans des couveuses comme on en a ici et par la suite sera le kangourou quand il atteindra un poids qui est au-delà de 1500 grammes. Le deuxième principe, nous devons assurer les apports glycémiques. Il y a des apports qu'on le fait de perfusion et par la suite sera l'alimentation par la sonde avec le lait maternel ou le lait artificiel. Le troisième principe, c'est la prise en charge des complications. Parmi les complications, il y a la détresse respiratoire. Il naît avec une détresse respiratoire que nous appelons difficulté respiratoire. Ça doit être pris en charge par des moyens qu'on a. On donne l'oxygène et voilà.
Je vous remercie.
Je vous remercie aussi, madame.